À votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation, vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie.
Merci la vie, bien sûr, merci la vie.
Merci la vie, oui.
Merci la vie.
Merci la vie.
Merci la vie.
Merci la vie, c'est sur Radio Cité, 92.2.
Chers amis auditrices et auditeurs de Radio Cité, bonjour. Il y a quelques jours, j'étais invité chez une amie, comme ça un repas à midi. Avec ce que j'aime chez cette personne, c'est qu'il y a très souvent des gens avec qui j'ai envie de discuter, d'aller un petit peu plus loin. Et puis c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Je suis donc en face de quelqu'un que j'ai rencontré, puis je me suis dit, tiens, ça serait sympa si on prenait le temps d'aller un petit peu plus loin dans notre connaissance, parce que là, on n'a pas été très loin. J'ai en face de moi Marie Sennec. Est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu ce que tu fais de ta vie?
Alors bonjour à chacune et à chacun. Ou alors, c'est une grande question. Qu'est-ce que je fais de ma vie? On va commencer peut-être par ma vie professionnelle. Donc actuellement, je suis engagée dans l'église évangélique réformée du canton de Vaud. Et j'ai en charge le service Terre Nouvelle et la plateforme Enjeux spirituels de la transition écologique et sociale.
Alors, ça rejoint, c'est étrange ce que tu me dis, parce que ça rejoint un petit peu, je comprends mieux pourquoi tu étais chez cette personne l'autre jour, qui a une vision, je dirais, assez panthéiste de l'univers. Et là, tu me parles maintenant d'environnement, d'écologie, donc je pense, donc de notre relation à l'environnement. Tu fais partie de cet environnement, là où nous sommes aussi, dans ce bistrot maintenant, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit.
J'ai cet intérêt pour le rapport à la nature. Alors, premièrement, évidemment, en lien avec la tradition chrétienne, mais aussi avec d'autres religions et d'autres traditions.
Ça m'amène à une réflexion que j'ai eue tout à l'heure dans le train en arrivant ici depuis Versoix tout à l'heure. Je dis, mais en fait, moi, quand je dis merci la vie, puisque c'est le nom de cette émission, je dis merci à qui et à quoi? Alors, si j'en écoute cette personne, je dis merci à la vie d'une façon globale, de tout ce qui résonne, de tout ce qui vibre dans l'univers, puisque j'ai pris moi la thèse que tout ce qui était en vibration était vivant. Et puis d'autre part, je me suis dit, mais quand je dis merci la vie, est-ce que quelque part je parle à un Dieu qui est celui qui résonne dans la religion chrétienne et qui est un petit peu en-dessus de tout ça? D'ailleurs, des fois, il a tendance à trop nous le montrer. Alors, je ne sais pas. Là, je suis en questionnement. Est-ce que ce monde vibratoire qui nous dépasse, qui va au fin fond de l'univers, est-ce que c'est ça, Dieu?
En tout cas, la vie vibrante, ça me parle beaucoup. Je crois que la poésie est vraiment importante pour essayer de toucher à la spiritualité et pour essayer de dire Dieu. Moi, je suis pasteur, hein, j'ai fait des études de théologie, je me suis beaucoup intéressée à la Bible. Et pour arriver aujourd'hui, finalement, à être peut-être un peu parfois engluée dans les mots. Alors, j'adore parler, j'adore écrire.
Ça tombe bien aujourd'hui, merci.
Mais quand même, je sais que les mots sont quand même... ils sont pauvres dès lors qu'on va essayer de définir ou d'enclore Dieu dans une réalité. Donc j'ai envie de dire d'entrée de jeu que Dieu est au-delà de nos perceptions, au-delà de nos réflexions, et il nous dépasse totalement. Et à partir du moment où j'ai dit ça, je peux essayer de balbutier quelque chose. C'était la question de la gratitude, quoi. À qui je dis merci? Moi, j'aime bien voir Dieu aussi comme... le considérer qu'en fait comme la source de toute vie, et donc et de m'intéresser aussi à cette dimension de l'esprit de Dieu, hein. Donc on va parler du souffle saint, du Saint-Esprit dans ma tradition, et quand je dis finalement merci la vie, peut-être que je dis merci à celui qui est pour moi créateur et origine de toute chose, mais je dis aussi merci à celui qui est justement vie vibrante et qui est pour moi en fait cet esprit qui anime la création, qui est sa pulsation en fait. Et cette, la reconnaissance en moi, je dirais, elle est très liée au fait même de respirer. Donc merci en fait à ce souffle qui m'a donné le souffle et avec qui je peux être en résonance de façon très, très physique, par la respiration même.
Alors, normalement, j'ai un rituel dans cette émission. Je demande toujours à la personne qui est en face de moi, quand elle entend « merci la vie », commence à résonner en elle. Là, tu viens déjà de le dire.
Voilà,
mais j'en ai pas fini. Est-ce qu'il y a un événement qui s'est passé, disons, dans ces 24 dernières heures, où justement, tu vois cette étincelle qui dit « waouh, qu'est-ce que c'est beau ». Ça peut être quelque chose de tout simple.
Alors je dirais que comme j'ai une tendance assez forte à m'émerveiller, je pourrais faire une longue liste. Bon, en ce moment le printemps éclot, donc je dirais que là en ce moment le moindre brin de soleil, le soleil est assez franc aujourd'hui, on est dans un café mais on voit déjà l'arbre à côté, rien que ça en fait, pour moi c'est source d'émerveillement et de merci, merci à la vie. Et puis autrement je dirais dans mon métier de pasteur, voilà, je suis remplie de reconnaissance pour une personne qui a rendu son dernier souffle dans la paix. Donc ça, c'est vraiment aussi un émerveillement de savoir qu'il y a des passages comme ça, très forts de la vie, où les gens sont accompagnés. Donc ça, c'est aussi source d'émerveillement. Et puis, déjà, voilà, deux choses comme ça qui me viennent spontanément.
Donc là, pour cette personne, c'était le dernier cadeau de cette vie?
Oui, c'est ça, c'est le dernier merci. Et puis c'est le cadeau aussi aux personnes qui sont autour de lui. Et c'est vrai que là, je vous parle du lien, alors je parlais de la nature, mais l'autre chose qui est très importante pour moi, c'est la nature de lien à l'autre, en fait. Et pour moi, c'est un véritable émerveillement de voir la profondeur et la richesse des liens humains. Il y a beaucoup de méchanceté, beaucoup de perversion, ouais, tout ça, ça existe, mais dans ce grand marasme de l'humanité, il y a aussi des choses magnifiques, et la beauté des liens et la rédemption, en fait, dans les liens, c'est quelque chose, moi, qui me porte énormément. Je suis sûre qu'en fait, qu'un lien sain, S-A-I-N, peut vraiment être un lien de guérison et de permettre l'épanouissement de l'autre.
Il y a quelques mois en arrière, mes auditrices, auditeurs ne m'en voudront pas, mais j'ai envie de reformuler cela. Il y a 3-4 ans maintenant, j'étais invité pour donner une conférence à des jeunes qui sortaient d'une école de haute... c'était une haute école de marketing à Genève, et c'était la remise des prix, c'est très symboliquement fort, avec des chapeaux qui vont gicler en l'air et tout. Et là, on m'a demandé de prendre la parole sur le thème des objectifs du développement durable et comment les intégrer quand on va être un jeune entrepreneur. Et ça m'interpelle. Alors, je suis venu avec un slide, une diapositive. Et puis, elle était donc derrière moi, cette diapo, elle représentait en fait un sitar indien. Tu vois de quoi il s'agit ? C'est cet instrument très gros comme ça, mais très léger. Et puis, qui a plusieurs particularités. La première, c'est qu'il a 5 cordes qui sont, quand elles sont bien accordées, et quand je dis accordées, c'est qu'elles le sont également avec les astres. Suivant les moments de la journée, quand on joue des ragas, on accorde son instrument différemment. Et puis derrière, il y a la deuxième chose, c'est qu'il y a ce qu'on appelle gentiment des cordes sympathiques. Et quand elles sont vraiment bien en accord, elles vont se mettre en résonance avec celles que je touche, et elles vont également émettre un son, déjà physiquement et philosophiquement assez fort, parce que ça démontre quoi ? Ça démontre que quand on est en harmonie avec quelque chose ou quelqu'un, eh bien, sans qu'on touche, on touche quand même. C'est-à-dire que ça va très loin. Et toujours dans le postulat que tout ce qui est vivant est en vibration. Donc ça veut dire quoi en physique ? C'est qu'en fait, toutes les harmoniques qui sont en relation avec mes actes se mettent en écho, en branle par rapport à mes actes, par rapport à même mes pensées. Quand je te parle maintenant, j'ai une pensée qui me traverse, je l'exprime, il y a des ondes qui font que tu m'entends, il y a ton interprétation, tout ça travaille, et il en est de même pour les auditrices, auditeurs qui nous écoutent, c'est pas anodin. Donc, si on est relié comme ça, je pense que je suis de nouveau en accord avec cette personne chez qui on s'est connu, qui dit que tout ça est lié. Alors, est-ce que le tout ça... Encore une fois, je reformule ma question. Est-ce que ça ne serait pas Dieu, tout ça, quand ça va du début à la fin ? Est-ce que ça ne serait pas un début de lien entre, quelque part, la science et la spiritualité, ce passage-là ?
Grande question. Comme j'ai dit, c'est très difficile de définir Dieu. Donc, je ne vais pas utiliser comme un mot valise. Mais peut-être que la question est très bonne. Donc, laissons peut-être Dieu de côté, on y reviendra, promis. Je pense que la question du lien aussi entre spiritualité et science aujourd'hui, elle est cruciale. Je pense qu'il y a de plus en plus au niveau de différentes recherches, et vraiment quelque chose de dialogique qui est en train de se mettre en place, où on sort en fait du paradigme seulement matérialiste. Et ça, c'est assez passionnant. C'est passionnant dans le cadre de la nature, c'est passionnant dans le cadre aussi du rapport à l'au-delà et à la mort. Enfin, on voit qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont en train de changer. C'est-à-dire qu'on a des scientifiques qui commencent à... Il y en a qui le font depuis longtemps, mais actuellement, il y en a de plus en plus qui commencent à s'ouvrir, en fait, à une autre forme de paradigme, à essayer de penser différemment ce qu'on va nommer l'invisible. Donc ça, je trouve que c'est passionnant. En même temps, attention, de côté spirituel, je dirais attention à la récupération. Je dirais pas ça, les scientifiques, en fait, prouvent en fait ce que nous avons dit depuis toujours. Faire ce petit ajout là, dans cette petite parenthèse. Donc moi, ce qui me passionne aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a, je pense, un nouvel espace de recherche commune qui est en train de s'ouvrir. Et là, je pense qu'on n'en est qu'au tout début. C'est pour ça que je ne vais pas donner plein de réponses. Mais je pense qu'on est vraiment... je pense qu'on va découvrir énormément de choses, qu'on est qu'au seuil, en fait, de grandes découvertes. Maintenant, la question du réseau invisible, ce dont vous parlez. Moi, je crois beaucoup, au niveau de mes perceptions, de mes intuitions et de ma réflexion, au réseau invisible. Je pense que cette idée de la reliance au tout est vraiment très, très fort. En transition écologique, on parle énormément des questions d'interdépendance. Donc moi, je crois vraiment à l'interdépendance. Et puis, il y a une chose qui me semble très importante, c'est les interdépendances positives. Parce qu'on parle souvent de l'effet papillon. Enfin, on dit qu'il y a un problème quelque part. Souvent, on en parle de manière négative. Hein. On dit c'est une catastrophe. En fait, il se passe un truc et puis ça va mettre tout en branle. Et puis, il y a l'effet papillon, je dirais, néfaste dans la presse. Dans tout. Dès qu'on lit quelque chose, on dit « Ah non, mais ça y est, il y a une catastrophe. » Et puis, ça nous touche de manière mondiale. Donc là, on a une globalisation de la dramaturgie actuelle. Alors, le monde va mal, on est d'accord. Mais pas que.
On peut faire mieux, mais quand même.
Voilà. Et dans ce monde, en fait, qui est en grande crise, moi, je crois, en fait, à une interdépendance positive. Et justement, à ces vibrations, on peut parler de si on était un grand instrument, que, voilà, il y a des cordes, si les cordes vibrent de manière avec une conscience un peu plus élevée, je pense qu'en effet, on peut arriver à un autre niveau de vibration. Donc on a vraiment cette question de l'interdépendance, mais je dirais, si on vient au texte biblique avec les métaphores chez l'apôtre Paul, où il dit en fait que la communauté est un corps. On a déjà cette notion en fait magnifique d'interdépendance où en fait voilà, on peut être chacun un organe différent, on peut être l'œil, on peut être la main, on peut être le pied, etc. Mais en fait, il y a cette notion que on est un corps systémique et qu'on n'est pas tout seul en fait. Donc cette question de la reliance, c'est faire partie d'un même corps. Moi, je trouve ça aussi, je trouve ça assez beau comme métaphore.
Alors, dans cette métaphore, bon, il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir un groupe de musique tourné pendant de nombreuses années au niveau international. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la musique passait vraiment à travers nous au moment où j'oubliais que c'est moi qui jouais. Ce moment où je fais partie d'eux, et à ce moment-là, j'ai le sentiment que le public n'est plus le public. Et je ne suis plus le musicien non plus. Je fais partie de ce tout. Et là, la musique passe telle qu'elle doit être. Et là, elle est vraiment vivante. Je dis telle qu'elle doit être. Et j'ai une autre référence à la base, c'est que j'ai donné des cours. J'ai fait mes études au CERN il y a déjà quelques décennies. Et à cette époque-là, je donnais des cours à l'amphithéâtre. Et un jour, je dis à ces élèves qui étaient tous beaucoup plus âgés que moi, c'était des ingénieurs, des physiciens. Et puis, lors d'un cours, je leur dis, bon, ben maintenant, on va laisser partir les partitions dans un coin, on s'en occupe plus. On va essayer de s'exprimer juste avec nos flûtes. Comme ça, voir si on arrive à dialoguer, ce qu'on arrive à discuter. Ça s'est plus ou moins bien passé, mais la chose importante, à la fin, il y a un physicien qui me dit, écoute, Michel, je vais te dire quelque chose, tu vas voir comment ça résonne en toi. On puise à la même source. Toi, tu l'exprimes avec des sons, moi avec des chiffres. Mais la source, c'est la même. Et tous ceux qui sont ici, qui viennent de différentes nations, de corps de métier, si on regarde bien ce projet qui nous dépasse, la source, elle est commune. C'est la première expérience que j'ai eue d'un physicien, dans le sens scientifique, qui pour moi était profondément lié dans le sens profond de quelque chose de plus grand.
Oui, ben ça, c'est la belle question. Par quoi nous sommes-nous traversés, en fait? Et ça, je crois que toute personne peut en faire l'expérience. Alors, je pense que c'est quand on est au sommet de son art, mais pas que. C'est aussi quand on s'abandonne, quand on parle aujourd'hui du flow, hein, quand on est vraiment dans le flow, on se laisse aller dans dans la parole ou dans le geste. Et là, on se sent, c'est vrai, traversé par quelque chose. Je crois que ces moments-là, alors moi, je suis pas du tout scientifique, donc j'ai pas de parole scientifique à donner là-dessus. Mais je pense que ces moments où, en fait, on se sent traversé, c'est des moments où on ressent un surplus de vie, où on se dit, ah, mais en fait, déjà, peut-être, on se dit aussi, je ne suis pas seule. Je suis en lien avec d'autres qui font cette même expérience, en fait, qu'on est relié, je dirais, alors, ou à la source ou à plus grand que nous. Et c'est vrai que moi, j'ai une fille qui est musicienne, et quand je la vois sur scène, parfois je sens qu'il y a quelque chose qui, on dit, tiens, ben là, elle est habitée, en fait, et on peut avoir l'impression d'être habité par quelque chose de plus grand. Ou alors peut-être qu'il y a enfin quelque chose qui peut s'exprimer, hein, c'est où ça, transcendance et immanence, mon Dieu, c'est un grand débat. Moi, personnellement, des moments comme ça, je les vis quand je suis en train de célébrer, ou quand je célèbre et que j'endosse la robe de pasteur. Pour moi, je suis au service de la communauté et au service d'une parole qui est plus grande que moi, en fait. Donc je me mets en situation que je me laisse traverser, en fait, par cette parole. Je suis l'instrument. Donc c'est ma voix, c'est mon corps, mais en fait, je suis juste, me laisse quand même juste traverser par cette parole qui est au-delà de moi. Et c'est aussi l'expérience que je fais dans l'écriture.
C'est ça qu'on appelle un moment de grâce.
Oh, il y en a beaucoup, des moments de grâce, mais oui, ça pourrait être vraiment un moment de grâce. Mais ça peut être aussi dans l'écriture. Là, moi, je suis beaucoup dans la parole et l'écriture. Il y a aussi des moments, en fait, où la plume s'emballe et où il y a des choses, en fait, qui vont se dire et qui nous dépassent. Et moi, j'aime beaucoup cette notion de dépassement, c'est-à-dire d'un au-delà de nous-mêmes, qu'on peut s'élever et aller au-delà de ce qu'on connaît de nous-mêmes. Ça me parle beaucoup. Et je pense aussi que les êtres humains sont tous des grands mystères infinis et qu'on n'a jamais fini de se connaître et de se révéler à soi et aux autres.
Tu dis que tu écris.
Oui. Ben c'est, j'ai toujours beaucoup aimé écrire. Ça a été toujours une manière de laisser dire des choses, en fait. Hein. Pour moi, l'écriture, c'est vraiment un processus de lâcher prise. Et puis, donc, dans mon métier de pasteur, l'écriture pour moi est assez centrale. Et j'avais un maître de stage qui s'appelle Yann Karakash et qui disait que les pasteurs sont des écrivains publics. J'aimais beaucoup ça, c'est-à-dire on met notre écriture en fait au service de la communauté et surtout aussi dans les moments où on va dire quelque chose d'une personne, que ce soit lors d'une naissance, d'une alliance ou d'un deuil. Et là en fait on écrit, on va conjuguer le texte biblique, les écritures avec notre écriture pour essayer de rendre compte d'une existence singulière. Et je trouve que ça, c'est vraiment la beauté de mon métier. Et puis du coup j'ai publié quelques livres.
Alors, chers auditrices et auditeurs, comme d'habitude sur le podcast de l'émission, je laisserai peut-être un lien ou deux pour que vous puissiez avoir une lecture de nos propos.
Tout à fait.
Tout à l'heure, tu abordais le fait que science et spiritualité, quelquefois, maintenant, sont des choses qui s'ouvrent un petit peu plus les unes sur les autres. Est-ce que tu as le sentiment, et ça tombe bien, parce que la personne chez qui on était l'autre jour, c'est quelqu'un qui est plutôt dans les soins qui relient le physique à l'esprit. Est-ce que de façon plus ou moins enrichissante, tu as le sentiment qu'en termes de médecine telle qu'on la pratique chez nous et de vieille médecine traditionnelle, il y a des choses qui se mettent en place dans le même sens?
Alors moi, j'ai vraiment l'impression que nous sommes dans une période où il y a une grande ouverture du public à tout ce qu'on va nommer médecine alternative, je mets des gros guillemets en fait, ouais. Et où en fait on ressent, j'ai l'impression, un besoin d'une médecine plus holistique, de plus d'espace d'écoute. Et puis je pense que la nécessité d'avoir plus de temps en fait pour un travail thérapeutique, c'est autant, j'ai l'impression, hein, un besoin du côté des patients que des soignants, où là ils font parfois du travail un peu à la chaîne, ils n'arrêtent pas quoi en fait, et il y a tellement de demandes. Donc là,
tu me parles du tarmède là.
Oui, c'est ça exactement, c'est compliqué, et je trouve que c'est difficile de soigner en fait quand on est pris par le temps. Donc ça, c'est cette question là, enfin la relation en fait entre médecine et spiritualité, pour moi, c'est un domaine absolument crucial. Et moi, ma passion, c'est de mettre les personnes en lien, en fait, et de mettre des choses qui n'ont pas à être en lien ensemble. Mais là, honnêtement, ça me semble évident que tout ce qui est processus de guérison ou processus thérapeutique demande en fait à prendre l'être dans sa globalité, hein, que ce soit le corps, l'esprit, l'âme. Enfin, ça dépend. On peut mettre tous les mots qu'on veut, mais je pense que c'est ça dépend de notre anthropologie. Mais c'est vraiment tellement important de s'intéresser à tout l'être, et je dirais même au-delà, pas seulement à la personne aussi, mais au système dans lequel elle est prise, parce que ce soit le monde du travail, la famille, une maladie, pour moi, est clairement un symptôme, pas seulement en fait d'un dysfonctionnement. C'est bien parce qu'on a la machine à café derrière qui fait du bruit, mais c'est exactement ça, la maladie. C'est le bruit comme ça qui arrive pour dire il y a quelque chose qui va pas. Donc c'est pas seulement parfois un déséquilibre personnel, mais ça peut être aussi un déséquilibre collectif. Et il y a quelque chose du symptôme qui cherche à se dire et à se dénouer. Donc je pense que cette quête de la guérison, elle peut pas se mener seulement dans le monde visible, ou elle ne pourrait pas se mener que dans le monde invisible. Moi, j'aurais beaucoup de mal à dire oui, c'est seulement dans le spirituel qu'on va guérir les gens, ou seulement dans le psychologique. Pour moi, il y a une intrication du matériel et de l'invisible, et qu'il faut vraiment se colter avec le tout, quoi. On peut pas choisir seulement une voie, mais il y a quelque chose là d'un combat à tous les niveaux qui est à mener. J'ai toujours eu un rêve, moi, dans ma vie, j'avais toujours envie de créer une maison des guérisons holistiques où les gens pourraient arriver dans la maison, peut-être déjà avoir un lieu où ils peuvent se poser hors du monde et avoir un lieu de ressourcement, mais où ils pourraient en fait passer d'un spécialiste ou d'une spécialiste à l'autre, et qu'au lieu de se combattre et puis d'être en concurrence en fait au niveau thérapeutique, que vraiment le psy puisse travailler avec la chamane ou avec la sophrologue, et puis aussi avec le chirurgien ou la chirurgienne. Enfin, moi, je me dis, mais ce serait magnifique en fait si chacune et chacun pouvait travailler de concert dans le même objectif, qui est celui en fait d'une guérison et d'une remise dans la vie. Parce que finalement, en fait, je pense que la guérison, on parlait de la vibration, pour moi, la guérison, c'est de se remettre en fait dans la bonne vibration et à sa juste place dans la trame du vivant.
Alors, on peut parler de reliance, on peut parler d'amour, on peut parler d'âme.
Oui, on peut. En fait, on a plein de mots. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est, on va très vite dans la poésie. En fait, on est très vite dans le monde de l'imaginaire. Ce qui ne veut pas dire qu'on disqualifie, mais on est là dans essayer de dire quelque chose en fait qui nous échappe. C'est comme Dieu, voilà. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est, on est en train de toucher un domaine qu'on ne pourra jamais ni enclore dans les mots, et on pourra jamais avoir un mot final. Moi, je crois. J'adore les explications, j'adore la recherche, j'essaie toujours d'en savoir et d'en connaître plus. Mais à la base, je sais que je ne saurai pas tout. Et j'en aurais. Voilà, c'est une quête infinie.
Alors, c'est une quête infinie pour nous, pour le moment. Mais tu me parlais tout à l'heure de cette personne que tu as accompagnée lors de son départ. Tu penses qu'elle en sait un peu plus maintenant?
Alors, c'est sa famille qui l'a accompagnée. Moi, je l'ai connue un peu avant. Ouais, moi, je sais pas. Enfin, je me dis. Voilà, pour moi, c'est une naissance dans un grand mystère. On pourrait dire une naissance dans une lumière. Il n'y a pas quelque chose là qui est de l'ordre de la révélation. Alors, personnellement, moi, je crois qu'il y a quelque chose après la mort.
C'est peut-être pour ça que je voulais tout à l'heure. Ce n'était pas un hasard quand je t'ai proposé dans ma phrase de dire c'était le dernier cadeau de cette vie.
C'est ça.
Et je voulais voir si tu allais rebondir. Alors, j'insiste un tout petit peu, mais je vois que tu démarres là-dessus. Alors,
oui, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui nous... J'avais écrit un texte où je parlais de l'aile vibrante de la résurrection, en comparant la résurrection au papillon. J'aime bien le papillon parce qu'à la fois il est fort et fragile, et je crois que la croyance en la vie au-delà de la mort, c'est à la fois puissant et fragile. C'est à la fois, c'est une croyance qui peut nous faire du bien, mais en même temps, qu'est-ce qu'on en sait, quoi. Donc j'aborde cette question de l'au-delà avec une immense humilité. Mais j'ai eu la chance en fait de replonger là-dedans, parce que je fais partie du comité Il est une fois. C'est un festival de films qui a lieu chaque année au Grutli et qui se déroulera là au mois de mai. Et la thématique de cette année, c'est au-delà. Voilà, donc c'est assez passionnant parce que donc c'est une programmation sur 5 jours avec des films et des débats sur cette question-là. Très intéressant de voir comment les cinéastes mettent en scène l'au-delà. Alors par l'au-delà, c'est à la fois l'après-mort, mais aussi c'est les fantômes. C'est les revenants, c'est le monde invisible. Donc je suis un peu plongée là-dedans en ce moment, et je suis ébahie en fait de la fécondité, de la créativité de l'esprit humain pour essayer justement de capter l'invisible et de dire quelque chose du sens de la vie. Et finalement, parce qu'on peut partir dans des trucs, dans le spiritisme, dans l'ésotérisme, dans le théologique aussi, parce qu'on veut expliquer qu'est-ce que c'est la résurrection, qu'est-ce que c'est à la fois cet éveil et ce relèvement. Enfin bref, on peut partir dans beaucoup de choses. Mais ce qui me semble vraiment intéressant, c'est que finalement, quand on parle de l'au-delà, ce qui va revenir dans beaucoup des films, c'est la question du lien à l'autre et de l'amour. Et finalement, le problème, ce qui est problématisé souvent, c'est qui m'aimera encore ? Serais-je encore aimé ? Est-ce que je vais encore exister dans cet amour qui m'a porté tout au long de ma vie ?
Alors, la théologienne que tu es, c'est un petit peu le fer de lance de ton travail, de ta cuisine interne pour avancer dans tout ça ?
Ce questionnement-là ?
Oui. Dis-moi, c'est peut-être autre chose.
Oui,
je vais à la pêche. Là,
oui, ouais. Alors, puis moi aussi, en même temps, c'est difficile de savoir quelle est vraiment sa. Je pense que la question vraiment qui m'anime, je dirais, au cœur de ma recherche, c'est ce mystère du relèvement. Donc là, on pourrait parler de résurrection symbolique.
Oui, ouvre un peu, s'il te plaît.
Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, je vais partir de façon très très concrète. Qu'est-ce qui fait que si quelqu'un vient me voir dans mon bureau. Il y a des personnes, en fait, en une heure, il y a un déclic, elle se relève, elle ressort, je vois qu'il y a un surplus d'énergie et qu'en fait, ça y est, il y a eu un déclic. Et qu'est-ce qui fait que parfois, il n'y a pas le déclic, quoi. Et ça, pour moi, on parlait de la guérison aussi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les forces de guérison vont affluer en la personne ou pas ? Donc voilà, ça c'est le grand mystère de comment est-ce qu'on peut apaiser, guérir, prendre soin, et quel est ce mystère en fait interne, de vitalité interne, qui fait que certains êtres sont dans une dimension de résurrection, de réanimation, de relèvement, et d'autres en fait on n'arrive pas. Enfin, il y a quelque chose d'une pesanteur en fait, que du mal ou de la souffrance, etc., où ils n'arrivent pas à se désengluer. Et donc c'est vraiment entre vie et mort, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on va vers la vie ou vers la mort, et je ne parle pas que c'est pas une question de volonté, hein. Qu'est-ce qui fait que on arrive à entrer dans une dynamique de rédemption ou pas ? Grande question.
C'est une grande question, c'est un mot qui revient souvent dans notre discussion. Bon, le titre de cette émission, c'est « Je ne sais pas, mais je me soigne ».
Alors, exactement. Non, alors ça, c'est vrai que... Bon, alors après, je suis pasteur protestante réformée, et c'est vrai qu'on est quand même dans une tradition qui est plus celle du questionnement que d'asséner, en fait, des réponses. Et alors, j'assume complètement cette posture, en fait. Bon, en même temps, en vous posant des questions, je vous donne quand même quelques pistes de réponses, mais...
Mieux que ça.
voilà, c'est, pour moi, l'idée, c'est plutôt... Enfin, voilà, en tant que pasteur ou théologienne, l'idée, c'est peut-être plutôt de permettre aux personnes de réfléchir et de se mettre en route intérieurement pour justement aller vers la réponse. Parce qu'on a tous des questions, enfin, on a des questions qui sont similaires, mais on a aussi chacun sa question. Et pour y répondre, eh ben, finalement, moi, je suis peut-être juste là, en fait, pour aussi laisser de l'espace à ces questionnements. Mais par rapport aux questions, j'ai écrit, en fait, un petit texte qui est l'histoire de Jean, qui est un homme, en fait, qui passe sa vie à chercher. Donc, il fait de la théologie, de la psychologie, etc. Enfin, c'était sous forme de conte que j'ai raconté ça. Donc, il cherche seul. Puis après, il cherche avec les autres. Et puis, finalement, il a toujours ses grandes questions. Hein, la mort, l'amour, le sens de la vie. Et il se dit, je vais aller voir le grand sage parmi les nations. Et il se met en route, il va voir le grand sage parmi les nations. Et quand il vient vers lui et qu'il lui pose ses questions, il lui dit, prends soin de ton âme. Et Jean est complètement déçu parce qu'il n'a pas la réponse. Et il part en courant dans la forêt, mais fâché, quoi, en fait, en disant, mais voilà, vraiment une colère, il ne m'a pas donné de réponse. Et puis à ce moment-là, en fait, voilà, il sent la forêt, il sent l'air sur son visage, et il est en pleine nature, il se sent vivant et vibrant. Et à ce moment-là, il s'arrête, il dit, mais j'ai pas besoin de retourner lui poser la question, en fait, puisque la réponse, c'est prends soin de ton âme.
Chers amis auditrices et auditeurs de Radio Cité, je propose qu'on arrête cette discussion sur ces paroles, parce que c'est une réflexion qui nous concerne toutes et tous. Je vous souhaite le meilleur du monde. Et puis, Marie Sénec, peut-être une autre fois encore pour prolonger cette discussion si tu as envie. Au revoir tout le monde et merci la vie.
Au revoir et puis oui, merci la vie et prenez soin de votre âme.